l'accès à l'Internet et aux SMS a été rétabli en RDC depuis mardi la nuit après 4 jours de coupure. Cette coupure est intervenue la veille de la marche pacifique organisée par les laïcs catholiques le dimanche dernier. Selon certains économistes, le manque à gagner s'élèverait à 20 millions de dollars. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois John Aluku. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de cabinet adjoint au ministère des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Al Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes analyste économique et stratège. Maître Chief Chipamba, on me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est coordonnateur de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La connexion Internet et le système de messagerie SMS ont été rétablis mardi sur l'ensemble du territoire national. La veille de la marche des chrétiens, le dimanche 21 janvier, le gouvernement avait procédé à la coupure de la connexion. Ces coupures devenues fréquentes sont décriées par les populations, notamment celles de Goma, qui pensent qu'elles ont un impact négatif sur les affaires. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Suivons ce dossier de Denise Loukesso.
Aujourd'hui, les internautes peuvent de nouveau naviguer en ligne, tout comme les SMS peuvent être envoyés, la connexion Internet étant rétablie après 3 jours de coupure. Mais du samedi 20 jusqu'au mercredi 24 janvier dans la journée, c'était le blackout total. Plusieurs entreprises de la place ont été paralysées, faute de cet important outil de travail qu'est Internet. Il s'agit notamment des banques, des agences de voyage en ligne, des entreprises de gestion des sites Internet, voire certaines entreprises publiques et privées. C'est le cas des DHL, Société des Transports de Courriers Postaux et Logistique.
On a été affecté parce qu'on a des clients. Donc quand ils nous disent que non, je devais recevoir un courrier ou un colis à provenance de telle ou telle part. En essayant de se connecter maintenant pour donner la réponse aux clients, on est incapable, faute de quoi? De connexion. Parce que quand on travaille, on doit avoir une connexion permanente. Et quand il n'y a pas la connexion, c'est vraiment difficile. On ne sait pas répondre aux besoins des clients. Et il y a de ces clients qui ne comprennent pas. Des fois, ils commencent même à crier dans le bureau. Donc, c'est un manque à gagner parce qu'on ne sait pas satisfaire nos clients. S'ils sont là, ils sont satisfaits et nous aussi, on aura plus de clientèle.
La presse en ligne est, elle aussi, affectée par cette mesure. Réaction d'un des responsables.
Toutes les informations qu'on a mises en ligne, au moins à 90%, nos lecteurs n'ont pas vraiment eu l'information à temps réel. Surtout l'actualité, les journalistes sont là pour informer la population. Mais quand on bloque la connexion Internet qui peut permettre aux gens au moins d'accéder à l'information, vraiment c'est une violation de la liberté d'accès à l'information, mais également une violation de la liberté de la presse.
Bien entendu, tout cela a un coût car il s'agit des manques à gagner pour ces entreprises. Un opérateur économique de la place revient sur les conséquences d'une telle mesure sur le plan économique. David Katumbi.
Il y a une conséquence grave économique, ça c'est vrai. Prenons en moyenne une consommation d'$1 par un consommateur. Vous pouvez aller voir nos amis de RTL, Vodacom et toutes ces différentes compagnies. Ils ont quel nombre des abonnés? Et lorsque vous prenez le 1 dollar en moyenne, ça va être 2 millions. Mais la population aussi. Il y a les gens qui avaient des unités dans leur téléphone. Mais c'est parti. Qui va les indemniser? Donc nous sommes à la merci. L'État sacrifie sa propre population puisque ses opérateurs économiques, oui, ils ont perdu. Mais d'une manière aussi, ils ont gagné puisqu'ils ne sauront jamais rembourser les unités consommées perdues par ces coupures intempestives.
Pour contourner la situation qui devient répétitive, d'autres entreprises et hommes d'affaires ont choisi de se tourner vers l'extérieur pour avoir une bonne connexion afin de préserver leurs affaires.
Merci Denise Loukesso. John Aluku, vous êtes directeur de cabinet adjoint au ministère des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. On se souvient que la dernière coupure d'Internet et SMS remonte dans la nuit du samedi à dimanche 31 décembre 2017. À l'époque, selon le ministre Emery Okundji, le gouvernement disposait d'informations selon lesquelles d'ex-militaires avaient fait entrer des armes pour tirer sur les chrétiens lors de la marche projetée par les laïcs catholiques et faire endosser la responsabilité aux autorités du pays. Cette fois-ci, la raison n'a pas été donnée. Quelle était-elle?
Les
le gouvernement, ayant constaté que il y avait menace à la sécurité publique, a pris la décision d'interdire l'usage des équipements qui fournissent l'Internet et les SMS. Parce que c'est outre le fait que ces instruments ou ces moyens de communication modernes sont utiles pour la vie nationale, ces moyens sont aussi utilisés par certaines personnes mal intentionnées pour pouvoir troubler l'ordre public et la sécurité publique. Je m'en veux pour citer pour preuve que très souvent, lorsque il y a des manifestations du genre de celles qui ont été programmées pour la journée du 21 janvier, les informations non véridiques, des images et souvent des vidéos qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain, ont toujours été et diffusés à travers les réseaux sociaux pour apporter plus de craintes au sein de la population. C'est pour cela que le gouvernement, ayant pour mission principale d'assurer la sécurité la vie et l'intégrité physique des citoyens, prend des mesures pour éviter que pareils troubles ne puissent intervenir ou survenir.
John Aloukou, on se souvient qu'en termes d'images diffusées à travers les réseaux sociaux, même en temps normal, il y a des images qui sont diffusées à tout bout de champ. Et, de quoi le gouvernement avait-il peur?
Il n'y avait pas de peur de la part du gouvernement. La crainte était celle-ci. La meilleure crainte, qui était d'ailleurs justifiée, était celle de voir circuler des messages, images, informations qui désinforment la population. C'est pour cela, pour éviter que le trouble ne puisse prendre corps à travers ces moyens que certaines personnes mal intentionnées utilisent, le gouvernement prend, conformément à la loi, parce que la loi les permet, lorsque vous parcourez la loi cadre sur les télécommunications en République démocratique du Congo, à son article 46, vous comprendrez que le gouvernement ou l'État peut, pour des raisons de sécurité publique, de défense du territoire national, ou même de la protection des installations de télécommunications, prendre pour un temps des mesures qui visent à ne pas utiliser soit l'ensemble des instruments de télécommunication, d'équipements de télécommunication, soit une partie de ceci.
Alors, le gouvernement peut prendre ces mesures pour un temps. La marche, c'était le 21, mais jusqu'à 4 jours. Qu'est-ce qui justifie cela?
Au fait, la cause qui justifiait cette mesure, tant qu'elle perdurait, le gouvernement ne pouvait pas procéder immédiatement à la levée de cette mesure. C'est ainsi que, après s'être rassuré que la menace qui pesait sur la sécurité publique avait complètement disparu, le gouvernement a pris la mesure de la levée de cette interdiction de fourniture d'Internet et des services de SMS.
Le gouvernement est-il conscient du manque à gagner? A-t-il calculé les risques qu'il a fait prendre ou les manques à gagner qu'il a causé aux opérateurs économiques et à la population? Et donc le gouvernement pense à avoir aidé la population. Ce ne serait pas le contraire?
La sécurité publique et les droits fondamentaux. C'est un droit fondamental. Sans elle, les populations ne peuvent pas user paisiblement de leurs droits ni de leur liberté. Cette mesure visait également la protection des opérateurs économiques, du moins de leur business.
Est-ce qu'elle ne les a pas plutôt desservis?
Je ne crois pas. Et étant donné que la mesure a été pour la sûreté publique, pour protéger des personnes et leurs biens, viser aussi la protection des hommes d'affaires. Puisque s'il y a des troubles, on peut assister à des actes de pillage et tout ça, et qui peuvent être aussi préjudiciables au tissu économique, qui est déjà fragile.
Merci, John Aloukou. Alki Tengue, vous êtes analyste économique et stratège. Comment vous avez reçu cette mesure? Vous avez suivi, John Aloukou, la sécurité publique prime sur les droits des populations, notamment.
Je crois que M. John Aloukou est dans son élément. Il parle au nom du gouvernement. Et personne n'a la capacité de discuter des options qui sont prises par le gouvernement. Moi, je pense simplement que l'État est un État souverain. Il pose des actes dont il assume la responsabilité, ce qui est une très bonne chose. Et la seule chose que je trouve un petit peu ennuyeuse, c'est que, de manière répétitive, le gouvernement commet exactement les mêmes erreurs. Ma première observation est de dire... C'est vrai, on interrompt les communications, mais au-delà de l'interruption, toutes les images et toutes les vidéos qui ont été prises finissent dans le réseau. En même temps qu'on a interrompu Internet et son usage sur le territoire national, les gens se mettent le long du fleuve et ils communiquent en utilisant le réseau de Brazzaville, du Rwanda et des pays voisins. Et bien entendu, certaines personnes utilisent des satellites et passent les messages. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que France 24 et d'autres télévisions ont publié des images en même temps que des choses se passaient sur le terrain. Ce qui veut dire qu'en fait, au niveau de l'efficacité, l'État doit s'interroger sur la question de savoir si effectivement c'est la bonne décision. Deuxième chose, cette opération a quand même un coût. Et depuis que le gouvernement le fait, je n'ai pas vu un seul instant des dispositions qui, en fait, récompensent ou, j'ai envie de dire, remboursent les frais dépensés ou les frais perdus par les opérateurs économiques, même de manière symbolique. Je n'ai pas vu non plus le gouvernement présenter ne serait-ce que des excuses aux citoyens qui ont été privés d'un droit, en réalité, tout à fait inaliénable de mon point de vue. Et je considère simplement que l'État fait quelque chose de négatif parce que il donne un mauvais signal à tous les business qui sont basés sur Internet. Et il y en a de plus en plus. Je donne un exemple simple. Uber, qui fait du taxi partagé et qui est en train de s'ubériser, y compris dans le secteur de la santé, dans plusieurs autres secteurs, pensera difficilement à venir s'installer ici parce que à n'importe quel moment, le signal peut être coupé et donc le business ne marchera pas du tout. Moi, je dis simplement une chose. Il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, Internet est devenu un outil de travail. J'exhorte le gouvernement à l'utiliser et à découvrir les performances qu'il y a derrière. Si nos services de recettes étaient informatisés de manière intégrée, je crois que l'État hésiterait de pouvoir prendre des dispositions génériques et générales. Et je dis encore une fois, il y a des solutions à ce genre de situation. Si on désire arrêter les images et les vidéos, il y a des filtres spécifiques que l'on met qui bloquent les images et les vidéos, mais les gens continuent à travailler normalement.
Comme c'est le cas en Chine, par exemple.
La Chine est un pays vraiment modèle en matière de contrôle d'Internet et tout le monde peut comprendre. Et moi, je n'en veux pas du tout au ministère. J'en veux à l'autorité de régulation parce que c'est le conseiller numéro un en matière de technique et de technologie du ministère et donc du gouvernement. Et il est important que les gens commencent déjà à réfléchir, à dire, ok, on l'a fait plusieurs fois, ça n'a pas donné de résultat. Par contre, ça a exacerbé l'énervement au niveau de la population et ça a entraîné des pertes financières sèches, aussi bien chez les opérateurs de télécommunications que leurs opérateurs intermédiaires, au système bancaire, au système des transferts financiers et bien d'autres secteurs, et les plus petits et les plus petites PME sont les plus touchés. Et je crois simplement qu'il est important que le gouvernement se remette en question et qu'il envisage à l'avenir des solutions beaucoup plus spécifiques.
Et donc c'est une décision qui ne vient que noircir le climat des affaires en RDC.
Ça n'aide pas du tout la visibilité du gouvernement par rapport à la projection dans le monde de la compétitivité. Ça veut dire au moment où les gens commencent à choisir un autre pays, en tout cas pour tous les services qui sont très dépendants d'Internet, ne viendra pas en premier parce que simplement les gens vont se dire on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut interrompre pour n'importe quelle autre raison le signal. Et je crois simplement qu'il est important qu'un gouvernement, un pays soit prévisible.
Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'excuses aux citoyens, pas de compensation aux opérateurs économiques. Il y a dû se poser la question, quelle considération l'État a pour sa population?
Je crois que l'État a plusieurs impératifs à gérer et je pense que l'État doit pouvoir se remettre dans son rôle de fournisseur de services et gestionnaire d'une compagnie que nous appelons la République démocratique du Congo. Et là-dedans, il y a des droits et des devoirs. Et je pense aussi que, en toute équité, il est important que nous apprenions à nous parler de manière viable. Par exemple, moi, je pense que le gouvernement pouvait, d'une manière ou d'une autre, décider d'arrêter les services, mais réagir avec promptitude et progressivité dans la restitution du service. Par exemple, ils auraient dû, dès le lundi matin, rétablir Internet et garder les médias sociaux encore fermés s'ils le désiraient, et remettre éventuellement les communications dans les réseaux sociaux en filtrant les images. Et alors, après, revenir au service plein. Mais le blackout total, qui n'était même pas expliqué, est quand même quelque chose de gênant.
Il y a un problème de communication aussi.
Il y a un très sérieux problème de communication parce que lorsque vous faites le bien pour quelqu'un, il faut que vous le fassiez avec lui et qu'il comprenne. Donc, à mon avis, le gouvernement devait utiliser tous les moyens nécessaires pour faire comprendre aux Congolais qu'ils devraient prendre leur mal en patience et expliquer leur décision. Et je pense que ce n'est pas de la courtoisie, c'est de la responsabilité.
Voilà, Maître Chief Chipamba, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Vous êtes coordonnateur de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo. Comment vous avez accueilli cette décision du gouvernement de couper l'internet, les SMS?
Avec beaucoup de regrets, cher frère, parce que c'était pas la première fois. On peut dire que les entreprises de communication, moi je cite, ont récidivé pour la énième fois. En soi, la nuit du 30 au 31, cela était arrivé. Et cette fois-là, le ministre quand même avait pris le soin de s'adresser aux entreprises de télécommunication. Quoique la loi évoquée par le ministre cette fois-là n'était pas la bonne, mais il avait parlé. Et alors, moi, je me dis, en tant que protecteur de consommateurs, sinon consommateur moi-même, vous instruisez parce que il y a un besoin sécuritaire, nous voulons bien. Mais il vous faut également dire un mot par rapport au contrat qui est en cours d'exécution. C'est quoi ce contrat? C'est le contrat qui lie les consommateurs aux entreprises de communication. Et ce contrat appelle des obligations de part et d'autre. Ce contrat empêche aux entreprises de communication de se comporter de façon quelconque. Donc s'ils pensent qu'ils doivent arrêter la fourniture de XY service que moi j'ai acheté avec mon argent, ils doivent me préaviser, c'est la moindre culture. C'est tout ce qu'on n'a pas constaté. Au nom de la sécurité, nous voulons bien. Mais ces entreprises doivent être à même de dire à l'État, ben écoutez, vous nous imposez ceci, nous sommes en face de telle situation. Permettez-nous de prévenir, comme ça le consommateur saura sur quel pied danser. Et pire, c'est que pendant cet état d'interruption, les entreprises de communication continuent à nous vendre leurs produits, dont la fourniture est suspendue. Donc c'est un comportement encouragé par l'État qui avoisine un tout petit peu l'escroquerie. Comment voulez-vous me vendre un forfait, un produit, que vous ne savez pas me fournir, et vous le savez en amont? Et c'est ce qui s'est répété de samedi à hier la nuit. On ne nous préavise pas. Nous sommes surpris, vous ne savez pas chatter, vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas faire de recherche, et vous êtes bloqué. C'est tout le pays qui est bloqué. Les étudiants, les élèves, personne ne sait travailler correctement.
Alors, dans un laps de temps très court, c'est la deuxième fois que l'Internet, les SMS sont coupés. Et au niveau des consommateurs, qu'est-ce que vous avez fait à part vous plaindre?
Ben, nous sommes entrés, la difficulté chez nous, c'est que le consommateur est ignorant de ses droits. Donc, la première des démarches, c'est de dire au consommateur que chaque fois qu'il achète une carte de crédit, cela équivaut à un contrat qu'il signe avec l'entreprise de communication. Donc, il lui faut surveiller la consommation de son crédit, même la fourniture. Quand on lui dit c'est 3G, 4G, c'est 3G, 4G, il doit être à même de dire j'ai reçu ce que j'ai acheté. Donc pour mieux faire, pendant qu'on constate, nous disons aux consommateurs, vous avez des droits, ne vous taisez pas. Que l'on vous dise c'est l'État qui a instruit, que l'État qui a fait ceci, que chacun s'assume. Si l'État vous demande d'exécuter un ordre manifestement illégal, la Constitution vous empêche de l'exécuter. Dites à l'État que moi, ce comportement risque d'entamer mon fonds de commerce.
Même si, cela implique la souveraineté de l'État.
Cher ami, si cela implique la souveraineté de l'État, il y a des méthodes, il y a des procédures prévues par des lois pour permettre à l'État d'entrer dans le périmètre de particuliers. C'est ce qui fait que quand l'État estime qu'il doit faire tel ouvrage dans telle partie de la ville ou du pays, où il y a des privés qui ont leur concession perpétuelle, l'État fait ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a des procédures. Tout ce que l'on constate pour cette fois, c'est que c'était sans communiquer. Vous dormez, sinon vous faites un tour, vous venez de communiquer. Quand vous voulez répliquer à un message, c'est fini, vous êtes bloqué. Mais demain, quand vous souscrivez au service, on vous dit oui, on vous vend 20 mégabytes, on vous vend 10 mégabytes que vous ne savez pas utiliser. Et pire, c'est que quand on rétablit hier, personne ne vous dit ce que devenir vos mégabytes. Qu'est-ce qu'on en a fait? Nous sommes, nous consommateurs, Caritas, pour faire cadeau aux entreprises de communication sous la barbe de l'État. Nous ne savons pas. Pourtant, il y a des instruments qui imposent à l'État de veiller à la sécurité du consommateur. Moi, je défends le consommateur final. L'État a cette obligation, tant par des instruments locaux que des instruments internationaux.
Et donc, vous partagez l'affirmation de Al Kitenge qui dit que le gouvernement est en train de commettre les mêmes erreurs.
En tout cas, ils ont récidivé, si c'est le gouvernement. Parce que cette fois-là, nous avons ouï dire que c'était le gouvernement qui avait instruit. Cette fois-ci, on n'a rien entendu, rien appris, nous consommateurs. Nous regardons notre interface, et l'entreprise de communication, la moindre des choses, c'est que l'entreprise devrait nous dire, nous consommateurs, chers amis, chers abonnés, notre contrat est suspendu parce que nous venons de recevoir telle instruction du pouvoir public qui est motivée par telle démarche. C'est tout ce qu'on n'a pas vu. C'est tout ce qu'on n'a pas lu. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Je continue à me plaindre par rapport à mon pouvoir d'achat qui est quasi existant, que les entreprises de communication sont en train de piétiner et que l'État est en train d'encourager.
Et personne ne paiera les préjudices.
Ah, les cours des tribunaux sont là. Ça, je préviens. Je préviens par la même voie que la prescription en matière civile, c'est-à-dire le temps que la loi reconnaît à quiconque victime d'un préjudice en matière civile, c'est des 30 ans. Donc, si on ne réclame pas aujourd'hui, même mes enfants, si j'ai parti aujourd'hui, par rapport à mon patrimoine, ils peuvent initier cette action en réclamation de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Merci, Maître Chief Chipamba. John Aloukou, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est M. Fulgence Mbale depuis la ville de Kinshasa. L'interruption intempestive de l'Internet et du service de SMS est nuisible à la démocratie. Cette mesure de coupure bafoue la liberté de communiquer qui est garantie par la Constitution. Je me demande avec l'ensemble de nos compatriotes, comment l'actuel ministre en charge des télécommunications recourt à chaque fois qu'il y a des marches cette mesure qu'il rejetait quand il fut dans l'opposition. En tout cas, ceci rend vain le sens de son combat d'hier. On en a marre avec ce régime qui est un mandat.
John Aloukou. Est-ce que vous comprenez cette frustration?
Je voudrais rassurer les compatriotes qui parlent que le ministre est démocrate. Il est démocrate. Il est vrai que quand il était dans l'opposition, il a pris certaines positions.
Et dans ce même studio, nous l'avons reçu à cet effet.
Exactement. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement, il a la responsabilité. Celle de la protection des populations, celle d'assurer la sûreté publique, la sécurité publique, et lorsqu'il sent que même la vie des personnes, même l'intégrité physique des concitoyens, la paix et la sécurité publique sont menacées. En sa qualité de responsable, membre du gouvernement, il prend des mesures dont il tire le fondement de la loi.
Et donc, il n'avait pas besoin d'aviser les consommateurs, comme l'ont dit Alkitenge et Maître Chipamba?
La loi ne prévoit pas une communication préalable en cette matière. Lorsque vous prenez la loi sur le télécom, qui est la loi cadre, le défenseur des droits de l'homme tout à l'heure a dit que la fois passée, ce n'était pas la bonne loi qui était. Non, c'est la même loi qui a été appliquée. Même s'il y a eu erreur matérielle sur un chiffre. C'est la même loi. Il n'y a pas d'autre loi cadre en République démocratique du Congo sur les télécommunications. C'est celle-là. Il y a eu erreur matérielle sur un chiffre et nous devons convenir que même si on est juriste, on sait qu'il y a une erreur matérielle. Lorsque la loi elle-même elle est libérée, l'objet de la loi est donné, les petits chiffres-là ne peuvent rien justifier, comme il l'a dit, que ce soit une autre loi. La loi cadre sur les télécommunications en République démocratique du Congo, telle qu'elle a été reprise dans la lettre du ministre.
C'est la même loi.
C'est la même loi. C'est cette loi-là qui a servi de base.
Est-ce que cette méthode qui consiste à couper l'Internet, les SMS, est-ce qu'elle est vraiment efficace? Alkitenge a dit qu'elle ne l'était pas.
Sur le plan de la protection des citoyens et de la sûreté publique, pour l'heure, elle est efficace. Quitte pour l'État à se doter des moyens plus tard, comme le font d'autres États. Puisque vous me dites, aux États-Unis aussi, on applique le filtrage. Quand vous allez partout, on applique le filtrage.
Oui, mais ce n'est pas un blackout total
non,
comme ici.
L'État n'est pas encore doté. Puisque aujourd'hui, lorsque vous coupez rien que les réseaux sociaux, il y a des solutions alternatives que les consommateurs utilisent. Il y a des applications qui existent qui peuvent permettre que les réseaux sociaux puissent fonctionner, même si vous ne les avez bloqués.
Est-ce que l'État...
C'est ainsi que l'État va se doter. Se doter des moyens utiles pour faire du bon au filtrage. Mais en attendant, lorsqu'il s'agit de sauver la vie des personnes, s'il faut recourir à cela, merci. Rien que pour un certain temps, l'État le fera.
Merci, John Aloukou. Alkitenge, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Abamungu Balibouza de Bukavu. Je suis profondément désolé de l'attitude du gouvernement congolais à vouloir intentionnellement priver à des millions de Congolais leur droit d'expression en coupant l'Internet et les services SMS. De quoi le gouvernement congolais a-t-il peur? Y a-t-il un simple alinéa de la Constitution autorisant au gouvernement de priver au peuple congolais l'une de ses libertés, même s'il y a marche? Où allons-nous avec pareil comportement qui part dans une dictature en gestation? Vu qu'après chaque marche, il y a mort d'homme, il y a à croire que ce crime avait été planifié d'avance et l'unique moyen de le dissimuler à la communauté nationale internationale serait la coupure de l'Internet avant, pendant et après les manifestations.
Al-Kitenge.
Je crois que mon frère Biamungu s'attaque à une cause. Je pense simplement que nous devrions être en mesure de savoir que si la communauté internationale est celle que nous craignons en termes de visibilité sur le terrain, la communauté internationale est dotée de satellites et donc tout ce qui se passe ici, au millimètre près, est suivi et vu. Ça, je crois que le gouvernement le sait. Je crois que le problème ici, c'est plutôt la communauté locale, les gens qui sont sur le terrain ici, à qui on prive la possibilité de partager les informations en temps réel. Et encore une fois, je voudrais redire à mon frère, le directeur de cabinet adjoint du ministre, que leur conseiller par excellence en matière technique et en matière de télécommunications, c'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Et l'autorité de régulation est équipée pour être en mesure de les conseiller viablement. Et encore une fois, il faut se servir de la technicité qui existe. Et comme je le disais tout à l'heure, ça ne servait à rien d'aller dans un blackout total. Il y avait moyen de faire ce qu'on appelle des arrêts progressifs sur un temps très limité avec des restaurations progressives afin de permettre aux gens non seulement de travailler, mais également de rester compétitif et d'être attractif. La seule raison pour laquelle je le dis, c'est que, en matière de gestion d'information, à partir du moment où vous privez les gens de voies de communication, en fait, vous vous privez vous-même de votre capacité à communiquer avec eux. La bonne manière de gérer la mauvaise information, c'est de donner la bonne information. Et le gouvernement a la capacité de communiquer, y compris sur les mêmes médias, y compris sur les autres médias comme la radio et la télévision. Et je crois qu'en noyant la bonne information, en noyant la mauvaise information avec la bonne information, on a la capacité d'influencer effectivement les événements sur le terrain. Et je conseille et je recommande...
Et le blackout ne fait qu'amplifier les suspicions.
Le blackout favorise la spéculation. Et ça, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, on se rend bien compte aujourd'hui que chaque fois qu'on a fait un blackout, les conséquences sont très négatives. Pendant qu'on est en train de discuter, ce sont les étrangers qui donnent les chiffres de ce qui est en train de passer sur le terrain.
Et en termes de manque à gagner, il y en a qui parlent de 8 millions, 20 millions de dollars. Al-Kitenge, vous l'estimez à combien à peu près?
Je vais vous donner un chiffre clair. Il vous dit à peu près ce que c'est dans ce pays. Les télécommunications mises ensemble par jour, c'est à peu près 6 à 7 millions de dollars. Et entre 40 et 50%, ce sont les data. Et c'est cette partie qu'ils ont perdue.
Par jour.
Par jour. C'est cette partie que ces opérateurs de télécommunications ont perdue. À côté de ça, il faut compter la chaîne de valeur. Les gens qui distribuent le crédit et qui perçoivent de l'argent. À côté de ça, il y a tout ce qu'on appelle les transactions basées sur Internet. Transfert bancaire, transfert de fonds et tous les autres. Par jour, il faut compter entre 6 et 7 millions de dollars que nous perdons rien que le fait que nous n'avons pas Internet. Et encore que ça, c'est au minima. Vous mettez ça sur 2, 3, 4 jours, on est entre 20 et 30 millions de dollars, c'est évident. Mais encore que c'est très peu pour notre pays parce que nous ne sommes pas un pays intensivement utilisateur d'Internet. Et je continue à le dire, il est important que notre propre gouvernement en devienne un grand utilisateur et qu'il en dépende. Il mesurera de manière directe en quoi ce n'est pas bon de pouvoir priver les opérateurs économiques privés du vecteur de travail.
Maître Chief Chipamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Kinshasa.
Yves Poka à Kinshasa. La coupure de l'Internet à chaque fois que les manifestations sont annoncées constitue une très grave entorse à notre jeune démocratie, étant donné que les libertés de manifester et aussi de communiquer sont garanties dans la Constitution. Sur le plan économique, scientifique et social, les pertes sont énormes et cet état des choses justifie à suffisance que nous sommes loin d'être un pays sérieux digne d'attirer les investisseurs étrangers.
Maître Tshipamba.
Ben, l'ami a bien parlé. Nous sommes dans le dur business. La NAPI est en train de se battre. Nous voulons assez que la production locale augmente. Mais comment vont-ils venir si d'un soir à un matin, on doit les empêcher de communiquer avec leurs partenaires? On doit les empêcher de faire des transactions. Et les motivations sont soit parce qu'on a oublié un chiffre ou deux. Je dis à monsieur le directeur de cabinet que, en droit, la différence d'un chiffre sur une loi renvoie à autre chose. Donc, l'intitulé et la numérotation de la loi, quand ça ne se croise pas, ça crée une confusion. Donc, on ne peut pas exécuter. OK? Quand vous parlez de simples chiffres, nous voulons bien. Mais il s'agit de droits garantis tant par la Constitution que de lois particulières. Et pour marcher sur ce droit-là, la Constitution et ce loi-là prévoient de procédures. Et au-delà de ça, nous, quand nous payons, quand vous incitez ces entreprises à ne pas respecter les contrats qui nous lient, nous devenons leurs associés. Pourquoi laisser libre cours à cette escroquerie? Parce qu'ils sont en train de nous escroquer. Vous nous vendez des choses que vous ne savez pas nous donner. C'est une vente de vent. Donc, l'ami a pleinement raison que cette façon de faire ne sait pas amener le pays là où nous voulons qu'il soit.
Maître Tshipamba, c'est presque la troisième fois que ce type de mesure est pris, mais au niveau des consommateurs, est-ce que vous avez déjà tenté une action en justice qui a réussi?
Une action en justice, ce n'est pas à l'association celle de la tenter. Tout consommateur, notre souci, c'est que tout consommateur soit à même de revendiquer.
Mais vous avez la possibilité de les sensibiliser parce que tout le monde ne connaît pas la loi, vous l'avez
cher dit. Cher ami, nous sommes dans cette bagarre-là. C'est la grande bagarre. Et ce combat ne connaîtra de vrai succès que quand tout le monde parlera un même langage. Quand tout le monde saura que demain, quand je parle avec la SNEL, j'ai tel droit. Quand j'entre dans une alimentation, j'ai tel droit. Quand je contacte avec la SNEL, j'ai tel droit. C'est alors que vous verrez les choses changer. Parce que la difficulté du consommateur, c'est quoi? C'est qu'il achète, il est dans son petit coin, c'est lui qui a vendu. Et économiquement fort, il a du mal à prouver le préjudice qu'il a subi. C'est tout ça réuni. Donc nous sommes en train de vulgariser et les consommateurs et les animateurs de la justice, en sorte que chacun, en ce qui les concerne, essaye de se réveiller. Parce qu'il en va de l'intérêt de tout le monde, à commencer par le chef de l'État jusqu'au dernier citoyen. Parce que les droits que nous défendons concernent tout le monde.
Alors, il n'a été enregistré aucune réaction du côté des opérateurs des télécoms, vous l'avez dit. Pourquoi, selon vous, serait-ce peut-être, puisqu'ils auraient reçu soit des compensations ou des menaces du gouvernement?
Menace ou pas, nous n'avons pas un regard sur leur lien avec le gouvernement. Nous ne sommes pas sociétaires chez eux. Par contre, nous avons un regard sur le contrat qui nous lie avec eux. Donc, s'ils ont été menacés par le gouvernement, c'est leur affaire. Mais du moins, à nous, qui leur apportons de l'argent pour qu'on les appelle société, ils doivent nous respecter en nous disant ce qui se passe réellement. De la sorte, on sera quand même apaisé et de nous dire, ben, écoutez, nous suspendons pour telle période. Et pendant ce temps, vous retirez sur le marché tous les produits SMS et Internet. Or, vous savez que vous ne savez pas nous fournir parce que c'est depuis le matin qu'ils le savaient. Mais le matin de la journée de samedi, ils nous ont vendu ces produits. Les dimanches, puisqu'on doit communiquer réellement sans forfait, ils nous ont également vendu les SMS et l'Internet. Quand vous activez, on vous dit 50 mégabytes, 500 SMS, encore qu'on arrive à les consommer. Le lundi, pareillement. On rétablit sans communiquer et ils nous disent rien. Même pas des excuses. Ben donc, on est où là?
Et donc vous pensez que l'État souverain qui a pris cette mesure peut également prouver sa souveraineté en dédommageant les consommateurs?
Chers frères, nous avons signé, je veux qu'on comprenne une chose. Nous sommes dans un triangle. Les entreprises de communication ont reçu la permission d'exploiter de l'État congolais. Nous là, pour communiquer avec nos téléphones, nous avons signé un contrat avec les entreprises de communication. Donc il n'y a pas un lien direct entre nous et l'État si l'entreprise de communication n'intervient pas.
L'État qui est censé protéger sa population.
De façon indirecte. Directement, ce sont les entreprises de communication qui nous sont redevables. Quand l'État doit intervenir dans ces contrats, l'entreprise de communication qui nous sert doit nous dire que maintenant là, je connais telle difficulté. Voilà pourquoi je passe les bâtons à l'État congolais qui est en face de telle situation. Personne n'a besoin de la guerre. Personne n'a besoin que la ville soit à feu à sang.
Merci. John Aluku, l'émission est en train de se terminer. Les préjudices, qui va les payer?
Je voudrais d'abord apporter une précision. Le gouvernement est soucieux du développement socio-économique de ces pays et surtout du développement des technologies de l'information et des communications. Étant donné que ces technologies sont devenues à ce jour un véritable vecteur de développement ou de la croissance économique.
Et les préjudices, qui va les payer? Parce que le gouvernement est conscient.
Le gouvernement n'a fait que protéger les populations.
Et donc personne ne payera.
Les préjudices, il aurait dû être peut-être beaucoup plus important si les troubles qu'on avait évités par cette mesure ont eu lieu.
Et en conclusion, un message à tous les Congolais qui vous suivent et qui veulent entendre quelque chose sur cette coupure.
Que tous les compatriotes et nos concitoyens soient calmes. La mesure n'a pas été prise dans l'intention de nuire aux droits et libertés garantis.
Merci. Merci. Alkitenge, comment vous entrevoyez l'avenir sur le plan économique, sécuritaire, avec ce genre de mesures?
Je voudrais simplement exhorter l'État congolais à ne pas paniquer face à ce que les citoyens peuvent faire avec Internet. Que l'État lui-même devienne un grand utilisateur, il va accélérer par la transformation numérique sa compétitivité et sa capacité à produire des richesses et à interférer avec les citoyens. Et je pense simplement que, comme tous les pays qui avancent vite, la Tanzanie et le Kenya sont parmi les pays subsahariens qui montrent le rythme, il est important que l'État congolais engage sa transformation numérique.
Alors, engager sa transformation numérique, ça passe aussi par une bonne connexion. La fibre optique poserait encore problème.
L'État congolais a le devoir de se doter des infrastructures de base pour engager une grande transformation numérique qui sera la base de son émergence économique.
Et vous avez suivi, John Aluku, personne ne payera finalement pour les préjudices.
C'est bien dommage, des excuses seraient déjà une première façon de pouvoir considérer les citoyens et leur faire remarquer que tous les actes qui ont été posés ont été moralement posés en leur faveur.
Maître Chief Chipamba, en guise de conclusion, y a-t-il un conseil au gouvernement ou aux utilisateurs, aux consommateurs qui vous suivent en ce moment?
Un conseil, il y a. Je demande aux consommateurs de savoir que ils ont des droits et des obligations. Chaque fois qu'ils achètent une carte, qu'ils téléchargent dans leur téléphone, ils ont un pouvoir de réclamer. Même quand c'est l'État qui a ordonné, ils peuvent appeler au procès l'entreprise de communication en sorte que celui-là réponde de son comportement préjudiciable. Préjudice énorme venait de dire, Monsieur John, je doute fort, ça c'est l'État qui a évité ce qu'il a évité. Nous, par rapport à notre pouvoir d'achat, nous avons subi un préjudice réel que nous entendons recouvrer, peu importe la durée ou la longueur de la nuit. Nous recouvrirons ce préjudice.
Vous avez parlé de 30 ans.
Oui, la prescription en matière civile est de 30 ans. Non, pendant 30 ans, je peux aller devant un juge pour dire que je subis tel préjudice. Et puis enfin, sous d'autres cieux, le consommateur est indemnisé même quand il s'agit de préjudices éventuels. Or, ici, c'est nous, le préjudice est né.
Merci, monsieur Dialogante Congolais. C'est terminé pour ce soir. Réalisation Guy Maté, assisté de Dona Madimba. Mise en onde Willem Lungamba. Supervision Pele Kipela. Présentation et coordination. Voilà, j'y arrive. Alain Rungmouchinich. Merci de votre attention. Au revoir.